On parle de boxe ce matin, Alain, parce que Adonis Stevenson est toujours dans un état qualifié de stable aux soins intensifs de l'enfant Jésus à Québec.
Oui, effectivement. Pas de nouvelles informations publiées par le centre hospitalier l'enfant Jésus. D'ailleurs, on a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelles informations là, de concert avec la famille et le groupe Jim qui est prévu à l'horaire. Mais on rappelle qu'il est toujours dans le coma. Et pour parler de la situation, on va aller retrouver le docteur Mario Séguin, qui est neurochirurgien au centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Monsieur Séguin, bonjour.
Bonjour.
J'aimerais savoir d'abord, peut-être éclaircir, quand on parle de coma, quand prend-on la décision de plonger quelqu'un dans le coma, comment ça se fait et pourquoi on fait ça?
Mais en fait, on lit à plusieurs endroits que M. Stevenson est placé dans un coma artificiel, alors qu'en réalité, il est dans un coma réel au départ, là. Un coma artificiel, c'est comme si vous allez subir une intervention chirurgicale, on vous met sous anesthésie générale. Donc, votre état de conscience est normal au départ. On vous donne des médicaments qui dépriment la fonction de votre cerveau. Vous devenez endormi. Et quand on cesse de vous donner ces médicaments-là, vous vous réveillez. Ça, c'est un coma artificiel. Il faut comprendre que dans la situation de quelqu'un qui est victime d'un traumatisme crânien, qui est déjà dans un coma au départ, c'est un coma réel, mais où on essaie de diminuer la demande énergétique du cerveau en donnant des médicaments qui vont donner une sédation, en quelque sorte, là, si on veut.
Mais et pourquoi on fait ça, justement?
Bien, c'est quand on se rend compte que il y a une atteinte du cerveau, souvent on peut mettre des dispositifs qui nous permettent de mesurer la pression à l'intérieur du crâne. On voit sur les radiographies que la pression est augmentée puis qu'il y a des effets de pression sur le cerveau. On veut donner le maximum de chances au cerveau de récupérer et on veut donc diminuer sa demande énergétique. Donc c'est un peu comme si vous mettez une attelle pour une entorse. On met le cerveau entre guillemets au repos là, pour lui permettre d'avoir la meilleure chance de récupérer.
OK. On a dit que les 48 premières heures étaient déterminantes. Pour quelles raisons? Puis qu'est-ce qui se passe après 48 heures quand la personne est toujours dans le coma?
Bien, on sait que ce qu'on peut corriger chirurgicalement ou non, par approche médicale non chirurgicale, on réussit à le faire dans les premières 48 heures. Ce qui persiste passé cette période-là, c'est les réactions de gonflement du cerveau, là, ce qu'on appelle l'édème, qui lui va faire un pic aux alentours de ces 48-72 heures-là et peut persister pendant une période de plusieurs jours jusqu'à une semaine. Donc c'est ce qu'on voit, c'est pour ça qu'on donne toujours une période de cet ordre-là pour voir comment le gonflement, l'édème s'installe puis comment on peut réussir à le gérer.
Je vous demanderai pas de commenter le cas spécifique de M. Stevenson, mais quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans un coma comme ça, là, si on parle de termes de jours, de semaines, est-ce que ça peut aller dans... Je sais pas, moi, ça peut prendre des mois. Et qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion de ça?
Mais pour l'instant, je pense qu'on peut pas dire grand-chose parce qu'on n'a pas les données précises là, qui entourent son cas en particulier. C'est certain que plus une personne est dans un état d'inconscience pour une période prolongée, plus ça témoigne de la sévérité de son atteinte initiale, ou alors plus ça témoigne de la difficulté qu'on a de contrôler la montée de pression à l'intérieur de son crâne. Donc, généralement, c'est ça va de soi que plus cette durée-là est longue, moins bon est le pronostic. Mais on a vu des gens qui sont restés dans des comas aux soins intensifs pendant plusieurs jours puis qui ont réussi à récupérer au-delà des espérances.
Là. Docteur Séguin, vous travaillez en Estrie à la commission scolaire de la région de Sherbrooke qui a un programme sport-études en boxe. Et là, évidemment, ça ramène tout le débat pour ou contre la boxe. Est-ce qu'on devrait abolir la boxe? Il y a une de vos collègues, Julie Bolduc-Tisdale, qui, elle, s'est déjà prononcée là, pour l'abolition du programme. Vous vous situez où là-dessus, vous?
Bien, c'est sûr qu'on en parle de plus en plus pour les autres sportifs que les boxeurs, où le but du sport n'est pas de faire un traumatisme crânien, alors que si on garde ça en face, la boxe, le but ultime, c'est ça. C'est-à-dire que la victoire ultime, c'est vraiment de rendre son adversaire inconscient. On sait de plus en plus que ce qu'on pensait être des commotions cérébrales, qui étaient des atteintes transitoires de la fonction du cerveau, donnent des séquelles qui sont permanentes. On voit le devenir des boxeurs, d'ailleurs, là, même ceux qui n'ont pas à subir des traumatismes où leur vie est menacée. On voit quel genre de retraite ils ont, ces gens-là. Est-ce que c'est une bonne idée de permettre à des gens dont le cerveau est en croissance de se soumettre à des traumatismes répétés? D'un point de vue neurochirurgical, la réponse est certainement non. Bon, pour ce qui est d'adultes qui, j'imagine, comprennent dans quoi ils s'embarquent, comprennent les enjeux, qui sont en mesure de décider et chez qui le cerveau a terminé sa croissance, c'est une autre histoire. Pour des enfants, je pense pas que d'un point de vue médical, on peut être en faveur de ça. Là. Tout dépend de comment ils le font, mais j'imagine qu'il doit y avoir des contacts inévitables qui doivent survenir dans ce programme-là.
Est-ce que vous faites une nuance entre la boxe olympique ou amateur où les boxeurs ont un casque et la boxe professionnelle?
Bien, on voit au moins qu'il y a une préoccupation de protection du crâne du boxeur en olympisme. Ceci dit, le casque protège jusqu'à un certain point. Le problème, c'est que les dommages au cerveau surviennent non seulement à cause de l'impact direct, mais aussi à cause surtout de l'effet de secouage du cerveau à l'intérieur du crâne, qui ne seront pas protégés là, par le port d'un casque. Donc, il y a un dommage qui va survenir de toute façon malgré le port d'un casque.
Merci beaucoup, Dr. Séguin.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir. Dr. Mario Séguin, donc, qui est neurochirurgien au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Toujours dans le monde du sport, le Canadien, mesdames, messieurs, a tout un défi devant lui. Tous ses premiers choix étant partis sous d'autres cieux. Le club qui reste.
Il en reste encore quelques hommes.
Non, il en reste des papiers quand même. Il y a eu des transactions. Mais donc, le Canadien va jouer deux fois contre les Sénateurs d'Ottawa.
Oui, ce soir au Centre Bell, jeudi à Ottawa contre les Sénateurs. Et Paul, on est déjà rendu dans les matchs de 4 points.
Exact.
2 points de retard des Sénateurs sur le Canadien au classement dans l'Est. Les deux équipes ont joué le même nombre de matchs.
Tu me parlais quasiment d'une semaine de 8 points.
Ah, écoute, on est rendu là. Là, on va dire, les points s'accumulent. Là. C'est exponentiel, Paul.
Et, mesdames, messieurs, toujours à la recherche de la traduction musicale de son état d'esprit, le prophète a préparé une nouvelle chanson. Et tel un artiste... Je sais que c'est un artiste, mais il a, par l'intonation, sa capacité d'interpréter le texte, qui est, je pense, de sa conjointe, traduit l'admiration que les partisans ont pour un nouveau joueur du Canadien. C'est une de ses bonnes tunes au prophète. Oui. On écoute ça.
Ta, 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 ta. Il est arrivé un peu gêné. Il n'y avait pas de record à son cou. Tout son talent s'est déployé. Il est de mieux en mieux. Il y a plein d'atouts. C'est un bon ailier. Qui aime ça compter va peut-être devenir notre chouchou. Il souriait, c'est s'amuser. Il aime le tartare comme un fou.
Attention. C'est une des bonnes.
Alors ça, là...
Ça, c'est, ça s'en va directement...
Pour vos parties de Noël, là.
Ça, comme on dit, dans les grands succès, le best of du prophète. Et
on lance un appel à la disque ici, là. Il est temps que vous jetiez un coup d'œil du côté du prophète.
Exactement!
Oui, ça serait apprécié. En terminant, controverse avec Catherine qui vient nous voir pour la section sportive ce matin. Tu nous expliques le contexte de la controverse.
Ben, hier soir, en fait, c'est la remise du Ballon d'Or, meilleur joueur de soccer. Une soirée qui a été... vraiment poche, je tiens à le dire. Si vous voulez regarder la pire des choses à faire en animant un gala, c'est vraiment regarder le Ballon d'Or qui était présenté hier à Paris, animé par le DJ Martin Solveig. Premièrement, je pense que tout le monde, Alain, on écoutait aussi la même chose.
Les résultats étaient sortis sur les médias sociaux. Alors, on essayait de créer un suspense qui n'existait pas. Tout le monde savait qu'il allait gagner.
Et ce qui s'est passé aussi.
Un beau succès d'opération.
Oui, effectivement. Et pour la première fois de l'histoire, on remettait à une femme un Ballon d'Or. Bon, parfois, les femmes étaient invitées à monter sur scène quand même avant, mais pour la première fois, c'est vraiment le Ballon d'Or. Et lors de la remise, le DJ a dit à la gagnante, la Norvégienne Ada Ågerberg, de twerker. Twerker, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est bouger du derrière rapidement et du bassin aussi. C'est une genre de drôle de danse.
Il demande ça sur la scène?
Il demande ça sur la scène devant tout le monde. Elle est toute heureuse avec sa robe, son Ballon d'Or. Je vous propose d'écouter un extrait en français.
Est-ce que tu sais twerker?
Non.
OK, alors on a choisi quelque chose d'autre.
Alors, quelque chose d'autre, c'est qu'il l'invite à danser sur du Frank Sinatra. Et ça a suscité beaucoup de commentaires, vous comprendrez, parce qu'on voit le visage aussi de Ada, qui est quand même bonne joueuse, qui est restée sur scène, mais elle se demande un petit peu pourquoi il a demandé ça, en fait, de twerker. Les gens disaient, oui, mais ça n'a pas juste de bon sens. Pourquoi une femme doit supporter ça? C'est un moment qui est historique pour les femmes, pour le soccer féminin. Elle reçoit le prix et la première chose qu'il lui demande, c'est de twerker. Et il y a tellement eu de réactions.
De
que
se dandiner.
C'est ça.
C'est plus que se dandiner.
Ouais.
Là, c'est une position un petit peu sexuelle, le twerker. Okay. Là.
Okay.
Ouais, et réactions sur les réseaux sociaux, il y en a eu beaucoup, tellement que le DJ Martin Solveig a dû s'excuser auprès d'Ada et aussi avec une vidéo.
Il s'est chaud au conseil municipal de Montréal, le DJ.
Écoute l'extrait. Of course, didn't want to offend anyone. This comes from a distortion of my English level and my English culture level, which is not obviously not enough because.
Il est en français.
Oui, il aurait aimé de le dire en français. En fait, c'est une distorsion de sa culture anglaise et de sa façon de comprendre l'anglais. Il s'excuse bien sûr aux femmes. Et Ada ne s'est pas sentie harcelée. Au contraire, elle, tout ce qu'elle voulait, c'est le ballon d'or et voulait souligner à quel point c'est important également pour les femmes. Mais poser la question, est-ce qu'on aurait dit ça à un homme?
D'ailleurs, Andy Murray a tweeté que probablement, parce qu'on aurait mis également, c'est une soirée historique dans le sens que pour la première fois en 10 ans, c'était pas Ronaldo ou Messi qui était choisi meilleur joueur de soccer au monde, c'est le Croate Luka Modric. Ceux qui ont suivi la Coupe du Monde cet été, il a mené la Croatie à la grande finale. Ça a été la grande vedette de la Coupe du Monde. Et c'est pour la première fois en 10 ans là, c'est pas Messi puis c'est pas Ronaldo qui gagne. Alors t'avais, puis en plus pour la première fois on remet le Ballon d'Or à une femme. Et t'avais Mbappé qui a été choisi le meilleur espoir. Et là, ça a été un gâchis total. Et Andy Murray a tweeté, il a dit, probablement que Modric et Mbappé, on leur a posé des questions sur le foot, eux autres.
Ouais.
On leur a pas posé des questions, savoir comment ils dansaient.
Bon.
On est en 2018, je tiens à le rappeler.
OK. Alors, voilà.
On va parler de son rouge à lèvres, là?
Non. Non. C'est, des fois, tu te dis, c'est une crampe, là, tu sais, bouc, le cerveau arrête. C'est une bulle, là, c'est bouc. I'm deeply sorry because I offend you. Pas de souci. Il est 8h25.